Le Focus Écho.
6h47, focus ce matin sur la Chine où Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, est réapparu en public il y a 2 jours après 3 mois sans donner de nouvelles. Jack Ma, un symbole à lui seul du tour de vis sévère des autorités de Pékin sur le secteur privé et en particulier la tech. Alors question de fond ce matin, Pékin va-t-il mettre des menottes à Alibaba et les 40 disrupteurs qui sont en train d'inventer l'économie de demain et de forger la croissance chinoise des prochaines décennies? Bonjour Alexis Karklins.
Bonjour Dimitri.
Du cabinet 8 Advisory. Alors Alibaba et les 40 disrupteurs, je le dis, j'emprunte la formule à David Bavrez, grand connaisseur de la Chine, qui a cette expression ce matin dans les colonnes des journaux, du journal Les Échos. Les 40 disrupteurs, alors il en cite quelques-uns, c'est Ant Group, filiale d'Alibaba, c'est Pinduoduo, Meituan, autant d'entreprises qu'on ne connaît pas chez nous, mais qui sont aujourd'hui plus innovantes, plus conquérantes que la Silicon Valley, Alexis.
Alors, c'est vrai, et on le voit, on a pendant très longtemps gardé l'image d'une Chine qui était l'atelier du monde, finalement tourné vers l'export. Et en réalité, ce pays est en train de convertir son économie, en train d'avancer vers l'innovation. D'ailleurs, il y est déjà dans beaucoup de secteurs, dans les télécommunications, dans les transports. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Jack Ma, ce n'est finalement que la suite de phénomènes que l'on a déjà vu depuis quelques années, c'est que le pouvoir politique se rappelle la mémoire de tous ces patrons, tous ces magnats qui auraient envie de trop briller. Et donc Jack Ma arrive aujourd'hui, patron d'Alibaba et donc de Ant Group. Ant Group, c'est le bras financier d'Alibaba. Et ce qui est intéressant, c'est que l'argument qui est mis en avant par les autorités chinoises, c'est un argument qu'on entend aussi en Europe et aux États-Unis. C'est une question de régulation financière. En disant finalement, on est en présence d'un groupe qui a octroyé des crédits dans des proportions considérables par rapport à son niveau des fonds propres, et donc il y a un risque systémique. Attention, le système financier chinois est en risque. Mmh. L'autre argument qu'on entend beaucoup avec ces, et vous allez voir qu'on va les entendre beaucoup avec ces 40 disrupteurs, c'est sur l'idée qu'il y aurait des monopoles et des concentrations très très fortes. Mais la Chine n'invente rien. Aux États-Unis, 1890, le Sherman Act, première mesure antitrust contre notamment les géants pétroliers. Et vous voyez bien qu'en Europe, on a une commission européenne sur la concurrence qui est justement toujours très très attentive à ce qu'il n'y ait pas de concentration, à des trusts. Et puis, même en ce moment, sur les GAFAM, regardez combien de voix politiques sont en train d'émerger et de dire, mais attention, il faut couper cette puissance incroyable monopolistique des GAFAM. Et ces arguments-là, la Chine les reprend dans une économie de marché. Il est normal que l'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas de monopole.
Ça relativise beaucoup ce que vous dites, Alexis, le reproche qui est adressé à la Chine, à savoir qu'il y aurait une sorte de tour de vis autoritaire à l'égard de ses plus belles réussites économiques de ces dernières années, dont Ant Group, filiale d'Alibaba, qui a commencé par du paiement, c'était Alipay, mais qui aujourd'hui fait absolument tout dans le domaine financier, est le plus bel exemple.
Absolument, et c'est vrai pour Alipay, c'est vrai pour WeChat, qui est le grand concurrent d'Alipay. On ne se rend pas toujours compte en Europe, mais on parle de groupes qui ont des centaines de millions d'utilisateurs.
Ouais, voire un milliard, je crois.
Pour Alipay et pour WeChat, oui, on est dans cet ordre de grandeur-là. Donc, oui, alors, relativiser jusqu'à un certain point, parce qu'évidemment, il faut contrebalancer. Dès lors qu'on s'attaque à la Chine, quand on parle de la Chine, on sait très bien que le pouvoir politique a aussi envie de rappeler que le Parti communiste, en l'occurrence, est tout puissant et que l'économie, et c'est rappelé là aussi très souvent, doit rester au service de l'État et du peuple. En tout cas, ce sont dans les mots qui sont utilisés par le pouvoir chinois, des mots très très récurrents. Et vous savez très bien qu'il y a cette obsession de la stabilité sociale. Et je crois qu'il y a un des éléments à moyen terme qui va nous intéresser, qui devra être suivi, c'est est-ce que, contre tout ce que l'on croit depuis 2 siècles, est-ce qu'un régime autoritaire est compatible avec une économie de marché? On avait cette conviction, et on a cette conviction, et elle est juste, je la défends, que la démocratie est finalement le seul système politique compatible avec l'économie de marché. Et la Chine aujourd'hui est en train d'essayer de prendre une autre voie, une voie syncrétique, où cherche à démontrer que, en gardant un régime très autoritaire, finalement on a l'exemple de Singapour, on a les exemples de la Corée du Sud, Taïwan au départ, parce que maintenant ce sont des pays qui sont démocratisés, que c'est plus favorable pour la croissance économique et le développement.
Mais Alexis, la question de fond pour l'entrepreneur français qui travaille avec la Chine, c'est est-ce que la Chine est encore business friendly? Je rappelle qu'on vient de signer avec l'Europe un accord de libre-échange avec la Chine dans le domaine financier. Mais faut-il aller en Chine quand on voit ce qui se passe avec Jack Ma, à savoir qu'il y a une sorte d'insécurité quand même qui est potentielle?
Eh bien, c'est une excellente question. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous allons constater si ces fameuses lois économiques, de l'importance de la stabilité politique, oui, mais aussi de cet environnement démocratique, sont des lois qui sont vérifiées pour favoriser le développement économique. Je cite juste pour terminer deux grands économistes, Darren Acemoglu et James Robinson, qui ont écrit plusieurs livres, dont Why Nation Fails et plus récemment The Narrow Corridor, le corridor étroit, qui rappelle que le développement économique à moyen et long terme n'est possible que dans un État démocratique. Pourquoi ? Parce que l'innovation et la créativité, ça ne se décrète pas. Vous pouvez mettre des milliards, c'est ce qu'essaye de faire d'une certaine façon la Chine, vous ne le décrétez pas. Et ils font donc des institutions politiques et des institutions économiques qui favorisent finalement l'innovation, la créativité, l'investissement, la prise de risque. Vous n'investissez pas de votre argent si vous savez que au bout de 2 mois ou 3 mois ou 6 mois ou 2 ans, vous avez l'État qui va venir vous arrêter ou vous mettre en prison.
Ouais, enfin, cette question sur la stabilité politique chinoise, on pourrait aussi la poser à l'égard des États-Unis. Ce matin, dans le Figaro, un grand papier sur l'Amérique au stade pré-révolutionnaire. Quand même des mots extrêmement forts. Merci Alexis Karklins du cabinet Eight Advisory avec nous tous les vendredis sur Radio Classique. Restez avec nous dans un instant.